Nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Catherine de Sienne en Europe. Et moi, je ne vais pas parler de Catherine de Sienne. Il y a des gens bien plus compétents qui en ont dit des choses très intéressantes. Je vais me contenter, comme d'habitude, de dire un mot sur les lectures. Première lettre de Saint Jean qui est dans que je trouve là. Et puis l'Évangile. Évidemment, je prends ça dans le cadre du temps pascal. Nous voyons donc deux chemins, marcher dans les ténèbres ou bien marcher dans la lumière. Et c'est Saint Jean qui dit ça. Alors c'est important parce que vous vous souvenez peut-être des premiers chapitres de l'Évangile, cette fois-ci selon Saint Jean, où Jean dit « Celui qui pêche ne vient pas à la lumière, car il a peur que ses œuvres soient vues comme mauvaises. » Et ensuite, il est parlé de celui qui vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres sont justes. Alors, évidemment, celui qui vient à la lumière pour que ses œuvres soient justes, manifester que ses œuvres sont justes, on peut considérer que ça concerne Jésus, d'une part, dont les œuvres sont justes, il est la lumière, donc il vient au jour, il nous apporte la lumière, mais c'est aussi une autre manière, je crois, il y a une manière à creuser qui fait écho à ce que nous lisons ici. C'est qu'au fond, dans le texte que nous avons là, maintenant, j'oublie pas ce que je viens de citer de Saint Jean, de l'Évangile, mais nous avons ici quelque chose qui nous dit que pour être en communion, il faut venir à la lumière. Or, toute la suite de ce que nous lisons ne dit pas que nous soyons sans péché. Et précisément, Jean dit... si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur. J'attire votre attention sur le fait que tous ces verbes sont au présent. Et ce n'est pas si nous disons que nous sommes sans péché, nous avons fait de lui un menteur. Autrement dit, tout ça se vit au présent. Et en fait, je trouve l'un des grands messages qu'il y a dans ces lignes, notamment, parce qu'il y a évidemment plein d'interprétations, c'est que pour beaucoup d'entre nous, en fait, il faut d'abord avoir fait sa toilette pour mériter le pardon. On ne vient pas à la lumière quand on n'est pas bien sapé. On fait attention à la manière dont on se présente. C'est extrêmement mondain, je ne dis pas ça avec mépris, hein. Je veux dire que c'est un réflexe très mondain, quoi. Voilà. Alors que le petit enfant, en fait, il fait l'inverse. C'est quand il a un problème qu'il vient se montrer. Il a mis son pyjama à l'envers, il n'a qu'une chaussette, du dentifrice dans les dents. Enfin, il ne s'est pas essuyé la bouche en sortant d'avoir mangé sa mousse au chocolat. Enfin, et ça ne lui pose aucun problème. Vous voyez ? Autrement dit, l'image que je prends ici, c'est de dire on vient à la lumière pour être secouru. Et on n'attend pas d'avoir à ses propres yeux un air à peu près potable pour penser qu'on va du coup pouvoir être secouru. Il y a quelque chose d'incohérent. Et dans cette lecture, nous le voyons très 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 bien, je trouve. Avec cette mention du sang de Jésus. Jamais oublier que c'est le sang de Jésus qui nous a lavés. Alors, bah évidemment, pour certains, peut-être, oh, truc de sang, là, bon. Il faut être un peu conscient de ce qui se passait dans l'Ancien Testament, où le sang des animaux était versé, on offrait des animaux, alors c'était un gros sacrifice, parce qu'un animal, c'est... il peut produire du lait, il peut produire tout un tas de choses qui permettent de se nourrir. Et donc d'offrir un animal, c'est se priver de quelque chose. Et on avait l'habitude d'offrir les prémices des récoltes, les prémices des animaux, sans tache, sans défaut, pour rendre grâce au Seigneur. Bon, c'est une manière de faire, hein. C'était comme ça, je ne vais pas la discuter. Et en fait, l'agneau sans tache, c'est Jésus. Et Jésus verse son sang. Est-ce que ça aurait pu être autrement? Si Jésus était arrivé, je ne sais pas quand, ça aurait peut-être été un autre supplice. Mais il se trouve que c'est ce supplice des Romains, la croix, qui a fait que... Et il a versé son sang par les coups de fouet, par la lance ayant percé son côté après sa mort. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de sang dans cette affaire-là. Et ce sang qui est le sang d'un homme, qui est aussi Dieu, a une valeur qui sort du temps. Ce n'est pas un acte historique uniquement. C'est un acte qui sort du temps, d'où le présent que nous avons dans les verbes. Autrement dit, ce qu'on peut penser, c'est que si nous avons des péchés et que nous venons malgré tout à la lumière, nous invoquons le sang de Jésus qui nous purifie, hic et nunc, ici et maintenant. Et donc, on n'a pas à faire sa toilette avant de venir se laver ou se faire laver. C'est une illusion. C'est du maquillage. Ouais, c'est pas mal trouvé ça, c'est du maquillage. Donc, regardez tous ces verbes au présent. Nous marchons dans la lumière, donc il nous invite. Hein. Et on a des péchés. Et c'est parce qu'on est dans la lumière qu'on les voit, soit dit en passant. Hein. Et pourquoi il écrit ça? Il dit, évitez quand même les péchés, mais si jamais vous en faites, nous avons un défenseur. C'est pas nous avons eu un défenseur, quelqu'un est venu nous défendre, c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui nous défend maintenant, à partir du moment où nous lui remettons nos péchés. Ce que cela signifie, c'est que Jésus n'est pas mort pour 500 millions de péchés. Ou pour les péchés jusqu'en l'an 33, je dis 33 comme ça, hein. Ou jusqu'en... Jésus, qui est homme et qui est Dieu, la croix transcende le temps. Et c'est pour ça que Jean finit en disant, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Et saint Thomas d'Aquin dira d'ailleurs que ce sont même même pardonner les péchés d'autres mondes s'il en existait. Donc le salut des extraterrestres est acquis. Vous voyez l'importance de bien comprendre ce présent. Nous vivons, Dieu vit dans notre présent. Parce que Dieu est, il n'était pas, il ne sera pas, il est. Alors, pour le dire, on emploie les trois verbes, à vrai dire. Il était, il est, il sera. Pour montrer qu'il est dans le présent de chacun. Et donc, c'est irrationnel de dire, si j'avais su... maintenant, tu le sais. Alors, viens à la lumière. Voilà, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Je le dis très mal, j'en ai conscience. Mais c'est très, très important de bien comprendre que le salut est acquis, le salut est à nous, Jésus a acquis le salut pour nous, et il nous demande de venir nous présenter pour recevoir ce salut. Il ne nous force pas, il nous invite constamment. Et dans l'Évangile, je ne sais pas si vous avez vu, dans l'Évangile, il y a 5 fois le mot « Père ». Alors, on est en saint Matthieu, Et ici, nous découvrons que, à travers ces lignes, c'est beaucoup plus fort en saint Jean, hein, dans l'Évangile selon saint Jean, mais à travers ces lignes, nous découvrons que Jésus conduit au Père. Et pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'en fait, dans cette partie d'Évangile, Matthieu met en rapport le Père, oui, c'est Jésus qui parle, donc je peux dire Jésus met en rapport le Père, et le repos. Et au fond, notre repos, c'est d'être dans les bras du Père. Et une très, très, très grande quantité, je ne sais pas s'il y en a qui ne soient pas concernés du reste, hein, du drame de nos vies, qu'on soit un homme ou une femme, ce visage du Père que nous ne connaissons pas, dont nous avons fait des expériences parfois dramatiques, parfois en creux, c'est-à-dire absence de Père. Parfois, on a découvert que là, on a été déçu ou que je ne sais quoi. Bon, il arrive d'avoir un Père, certainement, ça peut arriver d'avoir un homme qui est vraiment très, très bon, très paternel, etc. Mais souvent, c'est assez défaillant. Et les pères ne savent pas très bien s'y prendre et ils ne savent pas trop à quoi ils renvoient, en fait. Et là, il y a une spiritualité à creuser du père. Et je pense que, au fond, tout père de famille devrait pouvoir se tourner vers notre Père des cieux en lui disant « Comment puis-je être une image pour mes enfants de ta paternité ?» Je ne sais pas si c'est tellement, tellement enseigné, au fond. Voilà, vous voyez, on prend beaucoup comme modèle Jésus, on invoque beaucoup le Saint-Esprit, mais et le Père, vous en faites quoi? Alors évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qu'est-ce que représente, au fond, l'idéal de la paternité? C'est la sécurité, c'est l'encouragement, c'est la reconnaissance. C'est tout ça. Alors, c'est vrai que la maman a un côté sécuritaire, mais davantage pour un enfant. Pour un jeune adulte ou pour un adolescent, la maman n'est pas forcément celle qui sécurise. C'est celle qui a toujours été là et dont on perçoit l'amour, mais le père doit être celui qui sécurise, précisément. On a beaucoup cette expression, hein. Est-ce que les lieux sont sécurisés? Voilà, le père qui sécurise, qui encourage, qui invite à repartir, qui invite à essayer encore, qui montre justement le visage de ce père qui est Dieu. Et voilà, donc c'est vraiment tout à fait important tout ça. Et vous voyez que cette lumière, c'est ce chemin de lumière que Jésus propose, hein, précisément, et qui nous est indiqué dans la première lecture par Saint Jean, et que Matthieu concrétise par ces paroles de Jésus. Le joug, au fond, et le fait d'être disciple de Jésus, c'est de marcher vers le Père. Ce sont les paroles de Jésus à Marie-Madeleine. Hein. Je monte vers mon Père et votre Père. Et ça, c'est pas tellement creusé. Alors, à titre très très personnel, je suis assez affecté pour ma part par la mort du pape François, parce que je ne sais pas pour de quelle manière, mais j'avais trouvé chez lui quelque chose d'extrêmement paternel. Peut-être sa manière d'être à la fois proche des jeunes et d'être sérieux et de savoir passer de la jeunesse à la moins jeunesse, d'être le protocole, bon, c'est bien, bon, ça va bien, quoi. Chose qu'on retrouvait, qui me fait penser un peu à Jean-Paul II, qui était très très proche des jeunes, mais qui pouvait être d'un sérieux ahurissant. Enfin, quand on écoute ses catéchèses, voilà. Et bon, voilà, je dis juste ça. Et nous pouvons donc, à cette occasion aussi, prier en cette neuvaine de messe pour le repos du pape. Nous pouvons déjà prier pour le prochain pape, pour qu'il ait cette capacité d'entendre la jeunesse, de l'accompagner, de lui montrer quand elle n'a pas bien compris. Et je crois que c'est capital. On entend parfois la jeunesse est l'avenir de l'Église. Non, la jeunesse est l'Église. Vos enfants ne sont pas votre avenir. vos enfants, c'est votre famille. Votre avenir, il est devant vous, si je puis dire. Vous l'aurez dans le dos chaque fois que vous ferez demi-tour. C'est Francis Blanche. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment important, ça. Bien sûr qu'on peut souhaiter... on a un pape qui nous a secoué, pas mal, et qui bougeait beaucoup, etc. La jeunesse, ça bouge beaucoup. Et regardez tous les baptêmes, regardez tout ce qui se lève aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un souhait à avoir de retrouver un catholicisme bien rangé, bien comme il faut? Est-ce que cette jeunesse va comprendre? C'est une question, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment prier pour le pape que nous aurons et aussi prier pour que nous l'accueillions comme un don de Dieu sans aucune hésitation. Voilà. Qu'il soit un père, précisément. Et je crois, j'entendais ça dans la bouche d'un cardinal africain, là, de Centrafrique, comment il s'appelle, Nzapalenga, et il avait cette très belle phrase, « Comme prêtre, je suis appelé à réparer le visage du Père défiguré pour tous ceux qui n'ont pas connu un véritable Père. » Alors évidemment, pour faire ça, le prêtre doit lui-même avoir fait cette expérience du Père et savoir qu'il doit la faire, qu'il doit toujours la faire davantage. Voilà. Bon, je vous livre ces réflexions en cette Sainte Catherine.